et bienvenue dans Popcorn. Cette émission revient sur des animations qui se sont déroulées au fil de l'année afin de responsabiliser les élèves dans leur citoyenneté et de les sensibiliser aux comportements à risque. Vous entendrez en première partie d'émission l'entretien de l'étudiante Léa Croisard qui est venue faire un sondage auprès de nos élèves sur leurs éventuels comportements à risque. Puis Audrey et Inès en service civique à la Maison de protection des familles de la Sarthe. Et enfin, Marceline et Eugénie de l'association d'éducation populaire Les CMEA. Nous suivrons plus en détail leur intervention et les outils qu'elles ont mis en place pour permettre d'ouvrir le débat et de libérer la parole. Cette émission a été montée et réalisée par Marion Vendée qui vous souhaite une très bonne écoute sur les ondes de Radio Prévert ou en podcast sur radioprévert.fr à la rubrique Popcorn. Très bonne écoute. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter vos études?
Bonjour, donc je m'appelle Léa Croisard, donc actuellement je suis en première année de master en psychologie du développement à l'université de Paris 8.
Pourquoi vous venez au collège Jacques Prévert de Pont-Vallin?
Alors je suis là aujourd'hui puisqu'en fait dans le cadre de mon master donc, j'ai réalisé un mémoire et plus spécifiquement un mémoire de recherche. Donc pour ce faire donc, je fais une recherche qui porte sur les représentations sociales de la prise de risque à l'adolescence. Pour mesurer ces représentations sociales, je fais passer un questionnaire. Et donc c'est toujours plus simple de faire passer des questionnaires dans des établissements pour avoir un maximum de réponses.
Est-ce que vous pouvez un petit peu développer votre sujet de recherche ?
Alors, déjà pour expliquer, les représentations sociales, c'est toutes les pensées, croyances, opinions qu'on peut avoir sur un sujet. Et donc moi, le principe, c'est de pouvoir mesurer ces représentations sociales-là sur la prise de risque à l'adolescence, puisqu'on entend toujours dire que l'adolescence est une prise de risque, que les adolescents prennent beaucoup de risques. Et nous, ce qu'on cherche à mesurer, c'est donc savoir quelles sont ces représentations sociales sur cette prise de risque et si elles sont vraiment liées à des comportements de prise de risque, donc si c'est vraiment des comportements qui se passent. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire la même chose, mais chez les enfants. Donc là, par exemple, je suis allée lundi dans une école primaire pour faire passer le même questionnaire, et ce qui va me permettre à la fin de pouvoir comparer si, dès l'enfance, en fait, on a des idées préconçues sur l'adolescence et savoir si même déjà, dès l'enfance, on prend des risques ou pas. Et donc, on demande aussi également aux adolescents de savoir si les enfants prennent des risques ou pas, s'ils pensent que c'est une période où on peut prendre plus de risques. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir comparer la période de l'enfance et la période de l'adolescence.
Ce qui signifie prise de risque, donc c'est aussi une projection que font les adultes sur les enfants et les adolescents.
Oui, on peut tout à fait parler des adultes qui ont des fois des idées comme quoi l'adolescence, c'est une période où on prend des risques, où on n'évalue pas forcément toujours la dangerosité des comportements que les adolescents peuvent avoir. Dans mon questionnaire, c'est surtout des comportements du quotidien. Donc par exemple, ça va être grimper sur un grand arbre, faire l'équilibre sur un haut mur, prendre des morceaux de verre brisés dans les mains. Donc c'est des comportements assez quotidiens pour que, de un, ça puisse parler aux enfants également, puisque vu que le questionnaire est identique pour les enfants et pour les adolescents, il faut que les enfants puissent comprendre. Mais l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir voir vraiment chez les adolescents et chez les enfants sans pour autant calculer s'il y a une influence de la part des adultes.
Quand vous parlez des adolescents, donc là vous nous dites que vous êtes allé en primaire, vous êtes ici en collège. Quelle est la tranche d'âge pour l'adolescence que vous étudiez?
Alors donc nous la tranche d'âge qu'on étudie, donc ça va être de 13 à 18 ans. Donc là les adolescents que j'interroge vont de la 4e à la terminale. Donc je suis là pour les 4e et les 3e, mais j'ai également fait passer des questionnaires dans un lycée. Et après pour les enfants par exemple c'est donc CM1, CM2, donc de 8 à 11 ans à peu près.
Est-ce que les jeux vidéo sont une prise de risque?
Bonne question. Alors, nous, en tout cas, les jeux vidéo, c'est pas du tout un aspect qu'on interroge. Après, je pourrais pas vraiment donner de réponse sur est-ce que les jeux vidéo sont une prise de risque ou pas, parce que c'est pas du tout mon sujet, pour le coup. Après, je pense que chacun sa perception des jeux vidéo. Mais je pense qu'il y a quand même toujours une différence entre ce qu'ils peuvent faire quand ils jouent et ce qu'ils vont vraiment faire après dans la vie réelle, on va dire.
Où est-ce que vous en êtes dans votre recherche et qu'est-ce qu'il en ressort pour le moment?
Alors, donc, pour l'instant, j'ai fait passer donc, des questionnaires dans un lycée où j'ai pu récolter à peu près 70 réponses. Là, donc, avec le collège, on est sur une trentaine de réponses. Ensuite, à l'école primaire, j'en ai une trentaine. Donc, l'objectif, c'est que pour chaque groupe, donc pour le groupe des enfants et le groupe des adolescents, j'ai une centaine de réponses. J'ai l'avantage de pouvoir travailler avec une étudiante de Master 2. En fait, on travaille toutes les deux sur le même sujet, donc on se complète sur le nombre de réponses qu'on obtient. Donc là, pour le moment, on est assez complète. En tout cas, pour les adolescents, on a beaucoup de réponses. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en plus, on demande l'autorisation parentale pour que les parents puissent accepter que leur enfant participe au questionnaire. Donc, il y a quand même toujours quelques parents qui sont un peu réfractaires. Et puis, même des fois, des enfants qui ne veulent pas forcément participer. Donc, les enfants, il nous manque un peu quelques données. Et donc là, pour le moment, on récolte surtout toutes les données. Donc, on les traite après dans un tableau Excel. Pour l'instant, j'en suis encore à l'étape de traitement des données. Et on n'a pas encore passé le cap des résultats et de pouvoir interpréter ce qu'on va obtenir.
Est-ce que vous interrogez des élèves en milieu rural et en milieu urbain, ou est-ce que vous avez choisi en fait une zone géographique spécifique ?
Alors, on n'a pas forcément de critères sur l'aspect géographique. Moi, j'admets que j'ai surtout joué par rapport à mes anciens établissements, parce que les établissements dans lesquels je suis allée sont tous les anciens établissements dans lesquels j'ai fait ma scolarité. Donc, c'est vrai que moi, tous mes établissements sont ruraux. Après, en l'occurrence, la camarade avec qui je travaille est plus en région parisienne. Donc, je ne sais pas trop quel établissement elle a interrogé, mais je pense déjà qu'ils sont peut-être un peu plus urbains. Mais on n'a pas forcément cet aspect de géographie. Alors après, je pense que ça peut-être jouer dans les résultats. C'est pas un aspect qu'on interroge, mais je pense que si on se penchait dessus, il pourrait y avoir une différence. Parce que ne serait-ce que géographiquement, par le fait que c'est pas la même culture. Forcément, en région parisienne, on a plus de mixité culturelle. Mais du coup, l'aspect géographique n'est pas interrogé, nous, dans notre étude. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié les établissements que je connaissais, parce que ça reste toujours quand même plus simple de pouvoir intervenir dans les établissements qui nous connaissent.
Eh bien, merci.
Merci à vous.
Bonjour, moi je m'appelle Audrey, je suis service civique à la maison de protection des familles de la Sarthe, qui est donc une unité spécialisée de la gendarmerie qui travaille essentiellement avec les enfants. Donc en fait, nous avons deux missions principales, la première étant de faire de la prévention dans les établissements scolaires, notamment sur les infractions pénales. Donc nous intervenons du CM1, CM2 jusqu'au lycée, avec des thématiques qui sont différentes et donc adaptées à chaque niveau. Aujourd'hui, nous avons rencontré avec mon binôme des classes de 6e, 5e, 4e et 3e, avec donc des thématiques différentes qui allaient du harcèlement scolaire aux dangers d'Internet, à la justice des mineurs et aux drogues et addictions.
Du coup, quatre niveaux, quatre thématiques différentes. C'est difficile de jongler entre tous ces élèves et toutes ces questions ?
En réalité, je dirais pas tellement. Nous sommes en service civique avec Inès depuis début octobre. Donc au début, nous étions en phase d'observation. C'est à ce moment-là que ça paraissait compliqué pour nous. Et en réalité, au bout de quelques semaines, environ un mois, on a facilement réussi à mettre en application ce qu'on avait vu. C'est d'ailleurs plus simple pour nous de jongler entre les niveaux au cours d'une même journée, de façon à ne pas répéter à la suite des heures les mêmes choses, car on ne sait plus trop ce qu'on a dit à qui. Donc effectivement, non, ce n'est pas compliqué de jongler entre les niveaux pour nous.
Qu'est-ce qu'il en ressort en fait ? Est-ce que les enfants se libèrent dans ces moments-là, ou c'est juste à titre informel qu'ils viennent ici ? Est-ce que vous observez des choses en fin de séance ?
Alors oui, parfois on a des élèves qui vont nous faire des révélations, donc sur des infractions qu'ils auraient pu subir, ou même ils nous font part de témoignages de choses qu'ils ont pu vivre. Par exemple, sur les dangers d'Internet, on a des personnes qui vont nous dire que des inconnus leur envoient des messages. Donc là, on leur explique un peu la démarche à suivre. Mais dans tous les cas, les élèves apprennent des choses, et c'est très valorisant pour nous, parce qu'on se sent très utile au sein des classes. Ils ont beaucoup d'idées reçues qu'on essaie de déconstruire petit à petit au fil des préventions. Donc non, on se sent vraiment utile et c'est très valorisant. Et eux apprennent des choses, donc c'est le plus important.
Alors justement, j'ai eu l'occasion de suivre votre session sur le cyber harcèlement. Donc vous vous adressez, comme vous l'avez dit, aux élèves depuis la primaire jusqu'au lycée. Est-ce que vous vous adressez aussi aux parents ? Puisque ça, c'est quand même des thématiques où on devrait aussi certainement former les parents avant peut-être même de former les enfants ?
Alors nous, en tant que service civique, ça ne va pas faire partie de nos missions. Par contre, nos collègues gendarmes, donc ils sont au nombre de 5 à la maison de protection des familles, font des soirées parents, donc des préventions, plutôt le soir, donc après le travail. On essaie de mobiliser un maximum de parents au sein de différentes villes de la Sarthe. Ça reste quand même assez à la marge, on n'en fait pas énormément, ce serait bien d'en faire plus. Malheureusement, c'est vrai qu'en tant que parent, trouver le temps entre le travail, les enfants, etc., c'est assez compliqué, mais on a un intérêt très particulier pour faire de la sensibilisation auprès des parents, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas conscience de tous les dangers d'Internet. C'est vrai que c'est des technologies qui sont assez nouvelles, tout ce qui est jeux vidéo, ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'on peut y retrouver. Puis les enfants vendent certains jeux comme des jeux tout simples de voiture ou un peu de bagarre, mais rien de très violent. Du coup, c'est plus en fait leur apprendre tout ce qu'on peut voir sur Internet et le danger auquel sont exposés leurs enfants au quotidien.
Merci.
Papier qui n'est pas la nôtre, et on va pouvoir prendre conscience de ce qu'il y a marqué sur le papier. Il y a des choses qui vont faire rire. Alors le rire, c'est pas forcément de la moquerie ou de la rigolade. Parfois le rire, ça peut aussi cacher de la gêne, ça peut aussi cacher le fait qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet avec lequel on est en train de parler. Le rire, c'est pas forcément de la moquerie. Et ça, c'est hyper important sur ce temps-là, parce que oui, il y a peut-être des mots, il y a peut-être des termes, il y a peut-être des choses qui vont vous faire rire, mais pas dans le sens rigolo, dans le sens on n'a pas l'habitude, dans le sens on n'a pas l'habitude d'en parler, et ça peut déranger. Alors, est-ce que quelqu'une veut commencer? Vas-y.
Bah, j'ai une fille, elle aime bien les cheveux et les yeux, et elle aime pas les règles, le corps et les hommes.
Ok. Les hommes? Vas-y.
Il aime faire pipi debout.
Ok. Et il aime pas quoi?
Rien.
Ok. Ouais.
Bah, il aime faire pipi debout. Et il aime rien. Et il aime pas rien.
Ok. Ouais.
Être bien dans son corps et travailler plus à l'école. Bah, dans ce qu'il aime pas. Ou elle, je sais pas.
Ok, pourquoi pas?
Vas-y.
Il aime faire un métier physique.
Ouais.
Et sinon rien.
Ok.
Ouais.
Il ou elle aime bien pas avoir besoin de mettre de robe. Et elle aime rien. Bah, elle aime pas rien.
Oui.
Elle aime ses cheveux. Elle aime ne pas courir beaucoup pour le cross. Elle aime pas les règles, s'habiller comme elle veut. Ah, et elle peut se faire violer si elle porte des jupes trop courtes, des trucs comme ça. On va y revenir.
Vas-y.
La mode, les vêtements de filles.
Ouais.
Les règles, la croissance de la poitrine.
Ok. Comment?
On peut y uriner.
Ok.
J'aime pas rien.
Ok.
Alors, il aime bien jouer au foot avec ses amis.
Ah, c'est moi.
Et il a dit rien.
Ok.
Elle aime les formes du corps.
Ouais.
Et elle aime pas avoir ses règles, les hommes qui insistent et être hyper sensible.
Ok, alors. C'est bien. Il y a énormément de matière pour commencer. Alors, on va revenir un peu. On va essayer déjà de classer tout ça en deux catégories. Ha! Où je veux en venir, à votre avis, sur ces deux catégories? Ouais?
Côté garçon et côté fille.
Pas tout à fait, non.
Plus sentimental et l'autre pas notre corps.
Ah, ouais, c'est à peu près ça. Ça va être le physique, en tout cas la biologie, l'anatomie, le sexe avec lequel vous êtes né. Et tout ce qui va être stéréotype sexisme, tout ça, ça va être dans une autre catégorie. Alors, qu'est-ce qui va dans l'anatomie, le corps, tout ça? Oui.
Les règles.
Les règles, ça, effectivement, il faut être biologiquement une fille pour avoir ses règles. Oui.
Urine est debout.
Bah oui, les filles ont pris, hein.
Oui. Ah non, en fait.
Bah on se met debout et...
Puis c'est sûr, non.
Bah non. Bah non. Alors, voilà. C'est une très bonne question. Est-ce que les filles peuvent uriner debout?
Bah oui.
Ah ouais.
J'ai déjà testé, hein, franchement.
Alors, effectivement, une fille peut uriner debout. Alors, juste pour commencer, hein, il y a plus de 80% des personnes qui font pipi sous la douche, que ce soit fille ou garçon. Les filles se mettent, enfin, s'accroupissent pas sous la douche pour faire pipi quand elles font pipi sous la douche. Donc, techniquement, une fille peut faire pipi debout. Alors après, c'est sûr que ça n'implique pas la même chose, parce que nous n'avons pas la même anatomie. Mais techniquement, on peut faire pipi debout. Sachez qu'il y a des choses maintenant qui s'appellent les pisses debout pour les filles, qui sont des petits entonnoirs et qui permettent de faire pipi debout. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, plutôt, entre un homme en train d'uriner contre un arbre ou une fille accroupie en train d'uriner contre un arbre?
Les trois.
Bah les deux.
Ce qui vous dérange le plus.
Mais il faut ça partout aussi.
Oui, j'avoue.
Tu peux faire la rue. Ok, là juste, on a une situation, on a deux arbres, un gars, une fille, un garçon debout, dos à toi en train d'uriner, et une fille accroupie, dos à toi en train d'uriner. Qu'est-ce qui est le plus gênant?
Bah la fille.
Toi l'homme, ok.
Ah non, en fait la fille. Bah les deux en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on voit le plus dans la vie en général? La fille accroupie ou l'homme?
L'homme.
Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a plus de mal avec le fait que la fille puisse faire ses besoins en extérieur, parce que elle est invisibilisée dans la société. On le voit pas, il y a très peu de femmes ou de filles qui font pipi sur le bord de la route, contrairement aux garçons. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent du sexe de naissance? Oui.
La croissance de la poitrine.
Eh oui, la croissance de la poitrine. Ça, ça n'a pas été dit. Il y a un autre groupe ce matin qui a sorti pour les garçons, parce que là, c'est vrai, plutôt des attributs, en tout cas biologiquement féminins, les règles, tout ça. On a eu l'accouchement aussi, le fait de donner naissance, qui va être plutôt attribué aux femmes à naissance. Et pour les garçons, un truc qui les embêtait, c'était l'érection matinale. Le fait de ne pas pouvoir contrôler son corps. Et ben, je vous avais dit que vous alliez rire. Et ben, ça fait aussi partie des choses qu'on ne peut pas changer. Du coup, est-ce que le reste, ça a à voir avec son sexe, son le fait d'être fille ou garçon?
Non.
Je suis un garçon, je perds des cheveux?
Oui.
Ok. Et on fait ça pour tout? Je suis une fille, je peux avoir un métier physique?
Oui.
Ok. Je suis une fille, je suis pas obligée de mettre de robe?
Bah oui.
Ok. Je suis un garçon, je suis pas obligée de mettre de robe?
Bah oui.
Non, mais je peux être sûre pour tout. Être plus valorisé?
Bah non, tu peux pas.
On peut être valorisé en tant que fille ou garçon?
Bah oui.
Ok. Jouer au foot avec ses amis?
Bah les deux.
Bah oui, les deux.
Ok.
Vas-y. Bah si.
Ensuite, ne pas aimer les hommes?
Bah ça peut être les deux.
Bah oui.
Être trop émotif, émotive?
Oui.
Ça peut être les deux?
Bah oui.
Ok. S'habiller comme on veut?
Bah
les deux.
Et des hommes un peu insistants?
Les deux.
Ok. Et le viol?
Les deux.
Non. Oui. Non, bah si.
Si, bah ça y est, j'ai le droit de me tromper.
Je vous ai dit, on sera pas tous et toutes d'accord, on va pas avancer tous et toutes au même rythme. On accepte ce que disent les autres. Oui.
Bah les hommes, ils sont quand même moins.
Tout à fait, mais.
Mais oui, ça peut arriver aux hommes.
Ça peut arriver. Et du coup, toute la phrase entière?
Bah oui.
Bah
non, pas forcément.
Bah un homme, enfin même avant, ça porte des jus.
Oui, mais.
Bah, il peut très bien se faire violer par un autre homme ou par.
Eh bien, il va y avoir
le. Bah oui, non mais. Après, j'avoue, c'est un peu. Je sais pas comment dire, mais en jupe, forcément, c'est pas forcément en jupe, mais.
Est-ce que vous pensez que la fin de la phrase a de l'importance avec le début de la phrase?
Non.
Est-ce que une personne nue, une personne habillée vraiment en tenue de ski, est-ce que je pourrais aussi l'écrire en dessous de à cause d'une jupe?
Oui. Non.
Bah, ah oui.
Non, si.
Pas si.
Non.
Bah, parce que tu peux faire violer dans toutes les tenues possibles.
Bah oui. Ah oui, ok.
Ok, on est la même chose. Alors, effectivement, le viol touche plus les filles que les garçons. Ça, c'est une réalité qui est là. À cause d'une jupe, malheureusement encore, c'est un argument du ou de la personne qui... Enfin, de la fille, parce qu'il y a aussi des filles qui violent des garçons et des filles qui violent des filles. Arrêtons de toujours mettre l'homme en tant que seul prédateur. Bien sûr, ça reste une minorité. Bien sûr, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Et donc, qui justifie le viol par la tenue vestimentaire?
Non.
Qu'en pensez-vous?
Non.
Non quoi?
Une fille, elle peut très bien se faire violer si elle est en pantalon et pull, qu'une fille qui est en jupe, enfin j'habite, mais top et tellement épique, enfin les deux, elles peuvent se faire violer dans tous les cas.
C'est, la tenue ne justifie en aucun cas l'acte. Déjà, il n'y a rien qui justifie l'acte, mais la tenue n'est pas un argument supplémentaire. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc oui, le viol majoritairement, c'est des hommes sur des femmes. Ça, c'est indéniable. Et on est quand même dans le moins, ça veut dire que la personne qui a écrit ça se sent contrainte et obligée de s'habiller pas comme il ou elle le désire, parce qu'il y a cette peur de « si je mets une jupe, je peux me faire agresser ». Est-ce qu'on est d'accord sur ce raisonnement? Je ne dis pas est-ce que c'est bien ou pas bien, hein. Je dis est-ce que c'est un peu comme ça que vous le voyez aussi, sur ce qui a été écrit? Non, ok. Est-ce que vous le voyez de quelle manière du coup? On ne voit pas. On ne voit pas? Ok. C'était vraiment, moi, dans ce que j'aime pas, c'est pouvoir s'habiller comme je veux. Parce que, ensuite, il y avait une deuxième ligne avec un parce que, en gros, si je mets une jupe, je peux être violée. Ça veut dire que la personne s'interdit de mettre des jupes parce qu'elle a peur. Ok. Et comment on peut changer ça? On va faire des petites... On va revenir parce que c'est quand même un sujet assez dur. On va y revenir à la fin du temps.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter les raisons de votre venue au collège avec les quatrièmes aujourd'hui?
Ok, eh bien moi mon prénom c'est Marceline Coisnard, je travaille dans une association qui s'appelle les CMEA. Je suis avec ma collègue juste à côté, qui va pouvoir se présenter aussi. Je te laisse dire ton prénom.
Bah, du coup c'est Eugénie et je travaille du coup aussi chez les CMEA, enfin au CMEA, l'association des CMEA.
Alors expliquez ce qu'est l'association. C'est une grosse association d'éducation populaire qui est plutôt régionale et nous on est basé, notre antenne en tout cas, elle est basée sur Le Mans et on propose énormément de types d'actions comme de l'animation professionnelle, CPGEPS, BPGEPS, de l'animation volontaire, BAFA, BFD et aussi des interventions sur plusieurs thématiques dont égalité filles-garçons. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui en tout cas.
Vous êtes venu avec les quatrièmes. Pourquoi les quatrièmes ?
Plutôt, c'était une demande du collège. On a rencontré Madame CDI, du coup, qui est Madame Michel, qui nous a demandé d'intervenir sur les quatrièmes, sans forcément nous donner, en tout cas, de raisons particulières. C'est parce qu'il y avait un travail à l'année déjà qui était fait, je pense, avec eux. Et l'idéal, c'était de faire sous une forme très intéressante, en tout cas, mais qu'on pourra dire juste après, pour travailler sur tout ce qui est sexisme, stéréotypes de genre, clichés, avec eux.
Est-ce que vous pouvez expliquer la séance, comment elle s'est déroulée?
Alors en fait, le but de cette activité, on va dire, c'est de jouer une première fois une pièce qui paraît problématique, en tout cas qui
qui est problématique, avec des situations problématiques. Et le but, c'est que chacun, chacune s'approprie la pièce et lève la main et puisse intervenir et prendre la place d'un personnage ou remplacer un personnage ou ajouter un personnage pour faire évoluer la situation dans une situation plus morale et plus acceptable.
Ce sont des situations qu'on retrouve dans le quotidien ou ce sont des situations un petit peu plus alambiquées ?
Alors nous, on a réfléchi à cette question, plus en préparant, et on est plus allé sur des situations qui pouvaient vivre là en quatrième.
Peut-être des exemples qui sont autour de du harcèlement de rue, notamment, ou des situations plutôt sur l'égalité des genres dans le sport, des sports de garçons, des sports de filles, etc. Et je voulais juste quand même rajouter, puisque ça a une importance notamment en termes pédagogiques, c'est que après chaque scénette, on fait un point à peu près de 10 minutes pour échanger sur, selon vous, quels sont les biais sexistes, quelles solutions on peut trouver, etc. Pour pas qu'on termine juste sur une scène, mais qu'on échange bien, en tout cas, après là-dessus.
Alors là, vous avez vu 3 classes de 4e.
Quel est votre ressenti ? Moi, j'ai trouvé ça très chouette. C'est passé hyper vite. En fait, on se rend compte que... moi, ça m'arrive souvent dans le cadre de mon travail de faire plusieurs interventions dans différentes zones en Sarthe. Et ce sont quand même les mêmes retours qu'on peut avoir. Là, j'ai trouvé des élèves plutôt très intéressés sur ces questions-là, avec une déconstruction sur le sujet et des apports qu'ils pouvaient déjà avoir. C'est-à-dire la notion de sexisme, ils savaient déjà ce que c'était. Ça a été très facile pour eux et pour elles de trouver les moments où les propos sexistes. Du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Mais je ne sais pas si toi, c'est le même ressenti.
Et ben moi déjà j'ai un ressenti par classe parce que déjà chaque classe est différente parce que les individus sont pas les mêmes au sein d'une classe et non j'ai adoré des échanges hyper intéressants mais sur un peu de frustration sur la fin de mais c'est normal hein, la déconstruction ça vient petit à petit et de se remettre en question aussi et de rester buté sur des choses mais c'est normal, c'est le temps qui fera le reste. Nous on a semé la graine, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle germe.
Justement, c'était la suite de ma question. Est-ce qu'il y a des situations où vous vous sentez vous un peu déconcerté par des réponses ou des situations avec des élèves?
Moi, fut un temps, oui, où j'ai pu être très surprise à des moments, et notamment pas spécifiquement dans le cadre avec ce public-là, mais même dans les écoles élémentaires où on peut sortir sur les tâches ménagères ou autres, les femmes c'est la cuisine, dans d'autres lycées, à des moments où quand j'ai commencé à faire ces interventions-là, j'ai pu être un peu surprise. Et là, je me dis, en fait, c'est pas que dans les classes ou l'école, c'est dans la société actuelle qu'il faut qu'on travaille toutes ces choses-là. Du coup, plutôt, je vois une note un petit peu d'espoir, où je suis assez d'accord avec Eugénie sur la petite graine qu'on plante, sur au moins on a fait ça, et c'est pas grave si là maintenant ils ont pas digéré les choses, mais qu'ils vont le faire après, quoi. Donc c'est plutôt moi une note d'espoir que j'ai quand on fait ces interventions-là.
Moi, de situation déconcertante, non, pas vraiment, mais par contre, je mets quand même un point d'honneur à un peu déculpabiliser le public accueilli quand il s'agit d'enfants, en leur disant en fait c'est la société qui a voulu ça, c'est pas vous en tant que garçon que je vise ou vous en tant que fille que je vise, c'est vraiment on nous a impulsé ça et un peu obligé ça et maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on change les choses dans le futur.
Vous arrivez toujours à répondre aux questions, à rebondir?
Pour le moment, oui. Mais là, par exemple, on peut peut-être évoquer un peu comme on a préparé. C'est qu'on s'est réparti un petit peu les missions qu'on avait aujourd'hui, donc la préparation des scénettes, etc. Et Eugénie, par exemple, a fait un beau petit travail de recherche de chiffres, notamment avant pour les petits échanges qu'on avait, sur la question notamment du sport, l'égalité des genres dans le sport. Donc, elle a fait tout un travail sur, au cas où, si on nous posait des questions, sur combien de danseurs étoiles il existe, bref, enfin, tout plein de petites choses sur le foot, etc. Ce qui permet, en tout cas, il y a vraiment un réel temps de prépa quand même derrière, ce qui permet de des fois, pouvoir avoir plein de notions de au cas où, si... Si les questions se posent pour qu'on puisse répondre.
Des questions où il n'y a pas de réponse, non, parce qu'il y a toujours une réponse. Des fois, la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Et moi, ça a été le cas là, sur le dernier groupe où j'ai mis de côté en disant « Vous inquiétez pas, on va revenir dessus ». Et on est revenu dessus, mais il fallait que je voie un peu le groupe et qu'aussi je construise une réponse qui soit adaptée au groupe et par rapport au mot qui a été donné, qui était assez violent. Donc, c'est plus, pas de la non-réponse, mais plus une réflexion de comment apporter une réponse qui sera entendable et qui puisse être entendue surtout.
Moi, je suis ravie d'avoir participé en tout cas à ce temps-là, et merci quand même à Madame CDI, Madame Michel, de nous avoir contactés sur ce petit temps-là. Non, mais n'empêche que c'est important, parce que je pense qu'il y a énormément de collèges qui ne font pas ces démarches-là, que ce soit nous en tant qu'association ou d'autres, mais je trouve que ce type d'intervention, c'est hyper nécessaire encore actuellement, quoi. Et avec n'importe quel niveau de classe, c'est important, quoi. Preuve en est sur les échanges qu'on a eu aujourd'hui avec les élèves.
Mais oui, nous, notre but, c'est de ne plus exister un jour. Enfin, plus intervenir sur ce genre... de plus intervenir sur ce genre de sujet, parce que, c'est le but final. Après le chemin, on verra bien.
Bonne route.
Merci.
Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Théâtre Forum, du coup ?
Non.
Alors, c'est tout simple. On va jouer, enfin surtout vous d'ailleurs, pas beaucoup moi. On va faire des petites scènes de théâtre. Alors, pour vous montrer, ça c'est une scène de théâtre, ça dure vraiment 20 secondes. Cette scène, elle va être jouée une première fois avec le script initial, c'est-à-dire comme ça a été écrit. Enfin, évidemment, on a le droit de rajouter un peu de texte et tout, mais il faut que ce soit les mêmes intentions, vous allez tout de suite les comprendre. Deuxième fois, on rejoue la scène, et dès qu'il y a quelque chose qui vous choque, que vous trouvez pas bien, qui vous interpelle, que vous voudriez améliorer, vous levez la main, et vous prenez la place du personnage qui vous pose problème. Est-ce que c'est clair ?
Oui.
Ok. Alors, il y a trois copines qui se promènent, et il y a trois garçons qui arrivent, et il y en a un qui va aller vers une des filles en particulier, qui va lui demander son Instagram.
Là.
La fille, elle est pas, elle veut pas le donner, donc elle va dire une première fois non. Ça va un peu énerver le garçon qui va insister, et qui va finir par prendre la fille par le bras pour vraiment avoir son Instagram. Les deux copines de la fille, franchement, elles sont un peu inexistantes. Elles font pas grand-chose sur cette scénette. Et par contre, les deux copains du garçon, ils vont y aller, et là on a le droit de y aller fort en balançant toutes les insultes, tous les stéréotypes sexistes qu'on veut. On peut y aller, on peut le faire, sachant que si je vois que c'est du personnel au personnel, ça va très mal se passer. Je répète, on joue bien des personnages et on est bien dans la peau du personnage. Allez, je vous donne un petit exemple, mais fais pas ta pute.
Voilà. Ah ouais.
On va déconstruire tout ça, hein. On va déconstruire juste après, c'est pas anodin. T'insistes,
Non.
Stop. Qu'est-ce qui marche pas dans la situation? Qu'est-ce qui est pour vous pas normal? Ceux qui n'ont pas joué. Vas-y.
En mode qui force.
Et
qui la prend par le bras.
Ok.
Les potes filles réagissent pas, ils la défendent pas.
Ok.
C'est pas bien ça.
Il y a un autre truc qui est problématique, c'est que les deux potes, ils encouragent.
Ouais.
Même si vous avez pas voulu être fier.
Ouais, voilà.
Moi je l'ai fait pour vous.
Non. Deux.
Arrête.
Non.
Mais lui.
Viens. Non, viens, c'est bon, je vais demander à une autre fille, au pire, c'est pas grave.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème dans cette nouvelle version?
Oui. Et bah, c'est qu'en fait, il dit qu'elle voit, il fait on va demander à une autre fille.
Bah oui.
Il va commencer.
Et bah il a redemandé une autre
fille. Le fait de dire, viens, on va le demander à une autre fille, c'est pas ok pour vous?
Bah non. Bah non, tu as demandé ta vie, il va recommencer à une autre fille.
Oui, vas-y.
Bah, c'est bien. Il peut aller demander à une autre fille, mais il faut pas forcer comme il fait.
Tout à fait. Il a tout à fait le droit d'aller demander le Insta à une autre fille. C'est juste le comportement et la manière de comment il va le faire qui était problématique. Donc est-ce que quand on demande, et que qu'on soit fille ou garçon, hein, quand on demande l'Insta à quelqu'un, déjà on n'insiste pas, la personne elle nous a dit non. Un non, peu importe à quoi il ressemble, c'est un non. Que ce soit un non timide, que ce soit un non très fort, que ce soit un non fébrile, que c'est un non. Et quand il n'y a pas de oui, c'est aussi un non. Si vous voyez que la personne en face de vous n'a pas envie de vous le donner et qu'elle ne dit pas non, c'est non quand même. Donc il n'y a pas besoin d'insister. Après, effectivement, les filles, les copines, elles peuvent... Désolée, parce que tu es dans le personnage de la copine. Donc les rôles des copines, effectivement, ça va être...
Je suis une copine.
Ça peut être...
ça peut être, c'est une des choses qui peut être mise en place, c'est justement qu'elle soit support, qu'elle vienne aider. Pareil pour les deux copains qui, de la personne qui insiste, bah, c'est, ce que vous avez fait, c'est de « Non, bah, allez, vas-y, laisse tomber, elle a dit non, c'est non, et c'est pas grave. » On peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et est-ce que vous verriez une autre manière de sortir de cette situation?
Ouais,
on part en courant.
On peut s'enfuir, la fuite est une solution. Tout à fait, la fuite est une solution. Oui.
Je vais le taper. Il cherche, il trouve, c'est comme ça, il y a pas.
Il cherche, il trouve.
Okay.
Il cherche, il trouve.
Ouais, il a raison.
C'est la vie, en fait.
Alors juste, si on remet ça d'un point de vue légal...
Alors, c'est plus toi qui vas prendre que lui.
Mais oui,
c'est ça le truc.
Il y en a qui parlaient de légitime défense. Oui, légitime défense. Tu as dit quoi le mot ?
Agression.
Agression. Et c'est quoi une agression ?
Bah, on te fait mal.
Agression, donc taper, j'ai entendu.
Agression
sexuelle, il y a quoi d'autre comme type d'agression ? Ouais.
Verbal.
Verbal.
Physique.
Physique. Alors, qu'est-ce que ça peut être une agression si on doit en faire une définition plutôt simple?
Oui.
Quelque chose que l'autre n'a pas envie et bah, qui n'est pas très bien.
Quelque chose que l'autre n'a pas envie et qui n'est pas très bien. Ok.
En gros, c'est pour lui faire du mal physiquement, verbalement.
Mentalement.
Bah, sexuellement.
Est-ce que c'est pour lui faire du mal ou est-ce que ça va lui faire du mal?
Non, dans tous les cas, parce que l'agression sexuelle, c'est sans son consentement, donc ça va lui faire mal. Sur le moment, et physique ça va lui faire mal aussi s'il se prend un coup, et verbal ça va lui faire mal aussi.
Oui, je suis d'accord, mais c'était est-ce que la personne, l'agresseur, c'est pour faire mal ou va faire mal?
Bah, les deux, parce que s'il s'arrête pas, c'est qui sait qui va faire mal.
Mais c'est dans le but de.
C'est dans le but de faire mal. Des fois, il y a agression sans vouloir forcément. Faire du mal. Alors oui, ça entraîne forcément de la douleur. Physique, psychique, morale, tout ce que vous voulez, ça entraînera forcément de la douleur, mais c'est pas forcément le but de l'agresseur. Le premier, c'est pas forcément de faire du mal, c'est lui obtenir ce que lui ou elle veut. Vas-y, je sens que t'es pas tout à fait d'accord.
Bah non, parce que si par exemple, il y a quelqu'un qui agresse une personne sexuellement et que la personne elle lui dit non, du coup elle l'interdit de faire. Et s'il continue, ça va lui faire mal physiquement.
Oui, jusque-là, je suis d'accord, mais...
Et après, plus tard, mentalement aussi.
Oui, quand on vit une agression, en tant que victime, qu'elle soit physique, verbale ou sexuelle, on va avoir mal. Si elle est physique, on va forcément... Physique ou sexuelle, on va forcément avoir mal au moins à deux trucs. Le physique et le mental. Quand elle est mentale, bah, souvent, on a juste mal au mental. Mais ça peut entraîner aussi des répercussions physiques, mais là on va rentrer dans un truc beaucoup trop complexe. Mais en tous les cas, quand on est victime d'une agression, on ressent de la douleur. Mais la personne qui est venue t'agresser, elle l'a pas fait forcément pour te faire du mal à toi, elle l'a fait pour se faire du bien à elle.
Et par exemple, je sais pas, son petit ami qui viole sa copine.
Ouais.
Et que la copine, elle lui en a parlé avant en lui disant qu'elle ne voulait pas faire ça. Il le sait, donc il va forcément lui faire du mal.
Il va lui faire du mal,
il est au courant qu'il ne veut pas le faire.
Non, alors en fait, si tu veux, lui, il va être un peu dans le déni. Ça devient un peu mieux comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il ne le voit pas. C'est-à-dire, ok, elle va lui dire, bah non, non, non. Mais lui, il ne le voit pas. Pour lui, c'est son besoin physique, c'est sa pulsion sexuelle, c'est plein de choses comme ça. Donc pour lui, ça lui fait du bien. Voilà en fait le mécanisme, comment ça fonctionne, tu vois. Et on peut comprendre que ça, tu le comprends pas, parce que tu n'es pas, en effet, une personne qui est dans, qui a cette attitude-là, tu vois. Donc forcément, tu te dis, bah non, ça va pas, tu te débloques là. Il débloque un peu quand même, elle débloque cette personne-là. Et bah oui, elle débloque un peu.
Mais dans tous les cas, une agression procure du mal à la victime. Les personnes qui sont... capable de faire des choses aussi inhumaines n'ont pas forcément le même mécanisme d'émotion, de sentiment et d'empathie que des personnes qui pour qui c'est inconcevable de faire ça et que ça ne devrait même pas exister et c'est impensable. C'est pas du tout la même réflexion. Ça peut créer en nous, ça peut instaurer de la colère, ça peut instaurer
de la violence aussi, ça peut instaurer plein de sentiments auxquels on n'était pas forcément préparé en venant ici.
C'est de la peur.
Et c'est, voilà, c'est aussi quand on ressent des choses, c'est qu'on est humain, donc c'est... faut savoir le gérer. Après, il n'y a pas de souci s'il faut en discuter à la fin, sans qu'il y ait personne dans la salle, c'est aussi possible. Là, voilà. Parce qu'on a quand même posé des choses un peu lourdes sur ce groupe-là. Donc on a dit, on revient à la situation, que la fuite c'était possible. S'interposer, c'était possible, mais du coup, on n'a pas fini notre débat déjà. Est-ce que la définition d'agression, on l'a terminée ? Agression, en gros, ça va être de faire quelque chose à la personne sans son consentement. Et du coup, est-ce qu'on frappe quand on se fait tirer le bras ?
Oui.
Non.
Alors, je vous rappelle qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque situation est différente. Chaque personne est différente. Et là, le but, c'est de voir tout ce qui est possible ou pas de faire. Ouais. On peut appeler à l'aide. On est rarement tout seul dans la rue. On peut crier. Ça va vous paraître bizarre, ce que je vais dire, mais... il y a beaucoup de gens, quand ils voient une situation anormale d'agression, tout ça, ils vont pas réagir, ils vont passer à côté, il va rien se passer. Mais par contre, à partir du moment où il y a une personne qui va demander de l'aide, et ben là, ils vont être dans l'action et dans la réaction et ils vont aider. Ça, on vous l'a mis en série parce que malheureusement, ça, ce sont des situations qui arrivent tous les jours. Je parle juste de la France, hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les garçons, vous n'êtes pas, vous n'allez, enfin, c'est pas parce que vous êtes des garçons que forcément vous allez. J'espère qu'il vous arrivera rien. Je suis pas en train de dire qu'il va vous arriver quelque chose. Mais c'est parce que vous êtes garçons que vous êtes immunisés de cette histoire. Et il peut aussi y avoir des soucis sur les garçons. Attention, encore une fois, la proportion est toute petite par rapport à celle des filles. Et encore une fois, entre le nombre de personnes qui se promènent dans la rue et le nombre d'agressions, on est vraiment sur un tout petit coefficient. On peut quand même se promener dans la rue. Hein. Il n'y a pas non plus un souci à chaque coin de rue.
Il n'y a pas un souci à chaque coin de rue. C'est ainsi que s'achève notre émission Popcorn. La semaine prochaine, nous ferons un petit tour au collège Jacques Prévert. La dernière émission Popcorn de l'année sera en effet consacrée aux personnes qui font vivre et qui entretiennent ce collège et qui s'assurent au quotidien du bien-être et de la sécurité des élèves. Depuis l'accueil jusqu'aux cuisines, de la salle de permanence au secrétariat et à l'atelier, nous rendons hommage à toutes nos équipes. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de Radio Prévert. Ils, tous des îles, qui se